Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, alors que nous considérons ensemble la merveilleuse réalité de l'histoire de Noël, je veux que nous regardions un texte de l'Écriture trouvé dans les deux premiers chapitres de l'Évangile de Luc. Et je vous invite, si vous voulez, à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc. Nous allons examiner une partie du chapitre 1 et une partie du chapitre 2 également. Je suis sûr que tous les parents sont convaincus, sans aucun doute, que leurs enfants sont les enfants les plus uniques qui soient jamais nés. Et je suis également sûr qu'aucun enfant ne vient jamais dans le monde sans remplir le cœur de leurs parents d'une quantité d'attentes. Quand nos quatre enfants sont nés, nous aussi, bien sûr, et même maintenant, nous continuons à avoir le grand espoir, le grand rêve et le grand désir qu'ils soient tout ce qu'ils peuvent être pour la gloire de Dieu, ou du moins lorsqu'un enfant vient au monde. Ce que nous espérons n'est rien de plus que nos aspirations. Ce que nous espérons n'est qu'un souhait, parce que l'histoire n'est pas encore écrite. Nous ne savons pas encore ce que cet enfant deviendra, et nous attendons avec une grande anticipation, avec un grand degré d'inquiétude et de préoccupation durant les années qui passent de la vie de cet enfant, pour voir ce que vraiment cet enfant deviendra. Ce n'était pas vrai dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, car à la naissance de l'enfant de Bethléem, tout ce qui devait être connu de cet enfant a été révélé dès le début. Il n'y avait pas vraiment besoin d'espoir. Il n'y avait pas besoin d'un souhait, d'un rêve, de l'imagination, car tout a été dit quant à qui était l'enfant et pourquoi il est venu et ce qu'il ferait et comment il affecterait le monde. C'est si différent. Deux jeunes juifs ordinaires ont été confrontés à l'enfant le plus stupéfiant que le monde n'ait jamais connu. C'est un enfant dont la vie est déjà clairement tracée et jalonnée à partir du moment de sa naissance, contrairement à tout autre enfant. Quel enfant a sa vie, son destin et son impact complètement décrits avant que sa vie ne soit vécue? Quel enfant a tous les détails de son caractère, de ses actions et des effets qu'il produira clairement définis avant même que l'un d'eux ne trouve sa place dans l'histoire? Une naissance vraiment, vraiment unique. Le seul enfant qui vient avec des lettres de créance préécrites est un enfant né juste avant la naissance du Christ, à savoir Jean-Baptiste. Beaucoup a été dit aussi de lui, dans la première partie de Luc également, au chapitre 1. Jean-Baptiste devait naître d'un prêtre du nom de Zacharie, qui avait une femme nommée Élisabeth. Mais bien que beaucoup a été dit au sujet du ministère de Jean le Baptiste, il y avait encore des questions dans l'esprit des gens, comme dans Luc 1, verset 66, où les gens qui ont entendu parler de cet enfant unique disaient « Quel genre d'enfant sera-ce ? » C'était encore quelque peu flou, même dans le cas de Jean-Baptiste. Bien que beaucoup ait été dit, qu'est-ce que serait cet enfant exactement? Mais l'enfant né après Jean-Baptiste, l'enfant dont la vie et l'histoire est préécrite non seulement dans la première partie du Nouveau Testament, qui annonce sa naissance, mais à travers tout l'Ancien Testament, est beaucoup plus unique que Jean. Et tant de choses stupéfiantes et étonnantes ont été dites à propos de Jésus-Christ, que nous lisons dans Luc 2, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Il offrit même à Joseph et Marie de l'émerveillement, à cause de ce que l'ange leur a dit à son sujet. Maintenant, qu'est-ce qui précisément a été dit au sujet de Jésus-Christ, à sa naissance, et qui est si étonnant, qui a laissé ses parents avec tant de stupeur, de crainte et d'émerveillement? La réponse commence à se dévoiler pour nous dans l'annonce de l'ange faite à Marie, à partir du chapitre 1, verset 30. Lisons-le. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Or, cette annonce, jointe à l'annonce faite à Joseph par l'ange, couplée à certaines choses, qui sont dites du Christ à la fin du chapitre 2, ou près de la fin, au verset 34 à 38. Ce sont ces choses qui étonnent les parents. Je veux que nous nous concentrions sur 6 d'entre elles dans notre étude du Seigneur Jésus ce matin. Tout d'abord, d'une manière générale, vous remarquerez le verset 32. Et là, nous lisons cette déclaration. « Il sera grand. Il sera grand. » Cette même déclaration a été faite dans le chapitre 1, verset 15, à propos de Jean-Baptiste. « Car il sera grand devant le Seigneur. » Jean-Baptiste devait être grand. Jésus devait être grand. Le mot peut signifier « extraordinaire ». Merveilleux, splendide, magnifique, noble, distingué, illustre, éminent, puissant, cela implique qu'ils sont des êtres à part. Jean-Baptiste était grand. Il était grand parce qu'il était le plus grand représentant des prophètes, le précurseur du Messie. En fait, on dit de lui qu'il n'y a pas eu de meilleur homme que Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus est grand, lui aussi, c'est-à-dire qu'il surpasse tout ce qui est éminent, prééminent, splendide, illustre, renommé, et tout ce que ce mot implique, mais pour des raisons autres que la grandeur de Jean-Baptiste, pour des raisons qui sont expliquées dans ce même passage. C'est ce qui l'a rendu grand, et c'est ce qui a étonné et émerveillé ses parents. Nous trouvons ici 6 choses qui qualifient Christ, dans sa grandeur, unique dès le moment de sa naissance. Tout d'abord au verset 32, « Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut », ce qui veut en fait dire « Jésus est Dieu, Jésus est Dieu ». Et c'est la vérité indubitable que je veux que vous imprimiez dans votre esprit, alors que nous débutons notre étude de ce passage. Jésus est Dieu. Donc Luc se réfère à Dieu avec le terme « le Très-Haut » ou, si vous voulez, le plus grand. Luc semble favoriser ce terme en identifiant Dieu, de même que l'ange qui fait l'annonce. Au verset 35, il est dit « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Puis au verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » C'est le témoignage de Zacharie, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. Alors l'ange appelle Dieu le Très-Haut. L'Esprit-Saint, à travers Zacharie, appelle Dieu le Très-Haut. Ce terme parle de la souveraineté de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 6 au verset 35, dit que vous serez les fils du Très-Haut. Dans Actes 7 au verset 48, Luc, qui écrit le livre des Actes, choisit aussi d'utiliser le même terme, le Très-Haut. Il y a même une occasion où les démons se réfèrent à Dieu comme le Très-Haut ou le plus grand. En fait, appeler Dieu le plus grand, appeler Dieu le Très-Haut, souligne sa souveraineté majestueuse. C'est l'affirmation de la supériorité suprême de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a personne plus grand que lui, il n'y a personne à son niveau ou au-dessus de lui. Le titre qui lui est donné dans l'Ancien Testament, « Et elle est lion en hébreu, et il est utilisé initialement dans Genèse 14 au verset 18. » Ce terme « elle est lion » devient un titre très courant de l'Ancien Testament pour désigner Dieu. Et où qu'il soit utilisé, il nous donne le sentiment du pouvoir souverain de Dieu surpassant toute chose, de sa suprématie ultime. Il n'y a personne plus grand que lui. C'est le plus grand en autorité et en prééminence. L'utilisation du terme « elle et lion » contribue de manière significative à souligner le rang suprême de la souveraineté de Dieu. Par exemple, dans Deutéronome 32, verset 8, nous lisons « Le Très-Haut donna un héritage aux nations » dans le psaume 47, au verset 2 « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Et par 4 fois dans la prophétie de Daniel, il est dit « Le Très-Haut règne sur la terre et distribue les royaumes des hommes à qui il veut. » Donc tous ces versets nous disent que le Très-Haut est souverain sur les nations. Il est souverain sur les nations. Deuxièmement, dans 2 Samuel 22, verset 14, il y a une description de Dieu contrôlant l'eau, les nuages et les cieux, les éclairs et le tonnerre, les mers et la pluie. Le texte nous dit « L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. » Et là, le Très-Haut est vu à travers sa souveraineté sur la nature, son contrôle sur tout l'univers créé. Il est donc souverain des nations. Il est souverain sur la nature. Dans le psaume 7 au verset 17 et le psaume 9 au verset 2, il y a une discussion sur la puissance de Dieu face aux méchants et sur la puissance de Dieu face à ceux qui se rebellent et lui désobéissent. Et il est dit, « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Il est souverain sur les pécheurs. » Dans le psaume 21, verset 7, il parle de la miséricorde du Très-Haut qui est accordée par le salut à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire qu'il est non seulement souverain sur les pécheurs, mais il est souverain sur les justes, à qui il accorde tout autant la grâce et la miséricorde du salut. Dans le psaume 46, au verset 4, il se réfère au tabernacle du Très-Haut, où le peuple de Dieu trouve protection, sécurité, tranquillité, confort. Et c'est ce qui nous dit qu'il est souverain sur son propre peuple racheté. En fait, dans Daniel 7, au verset 18, il est dit que nous sommes les saints du Très-Haut. Ce sont les saints qui appartiennent au Dieu souverain. Dans Lamentations, chapitre 3, versets 37 et 38, il y a une affirmation tout à fait claire qui dit « C'est de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Son propre nom résume alors à lui seul tous les éléments de la souveraineté de Dieu. Il est souverain dans toutes les dimensions possibles. » Souverain sur les nations, souverain sur la nature, sur les pécheurs, sur les justes, souverain sur le peuple qu'il a racheté, et souverain sur tout ce qui est mauvais et tout ce qui est bon. C'est-à-dire, il est le Très-Haut, il n'y a personne d'aussi élevé que lui. Il est Dieu au-dessus de tous les autres dieux, il est le Dieu suprême. Pourquoi est-ce important, me direz-vous? Revenons à notre texte dans Luc, chapitre 1, et regardez le verset 32. Voici le message de l'ange à Marie. Et le message est « Le fils que tu enfanteras sera appelé le fils du Très-Haut. » Le fils du Très-Haut. Puis au verset 35, à la fin du verset, « Le fils de Dieu. » Le fils de Dieu. Or, qu'est-ce qu'un titre de ce genre voulait indiquer, sinon rien de moins que l'évidence? Son intention est de dire « Jésus est Dieu ». Dire que Jésus est le fils du Très-Haut, c'est dire qu'il porte le caractère et la nature et l'essence du Très-Haut. Le terme « fils » n'implique pas que Dieu est un grand Dieu qui a engendré un sous-Dieu, ni que Jésus est un sous-Dieu. C'est dire que Jésus porte la même vie, la même essence et la même nature que Dieu. Comme le dit Hébreux 1, il est la reproduction exprimée ou exacte de l'image de Dieu. Hébreux 1, versets 1 et 2 nous dit cela. Dieu nous parle par son Fils, verset 3, qui est la réplique exacte de lui-même. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il porte la vie et la nature de son Père. Voilà l'essence de l'utilisation de cette idée ici. Maintenant, aucun écrivain ne nous montre plus clairement le sens de Christ, le Fils envoyé par son Père, que l'écrivain Jean. Donc je voudrais que vous vous tourniez vers Jean 5 pour un moment. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai suggéré que ce qui était nécessaire dans sa vie était la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'était un homme juif et il m'a dit « Je ne sais pas qui est Jésus-Christ. J'ai besoin de le savoir. » J'ai dit, je veux que vous rentriez chez vous cette semaine, et que vous fassiez juste une chose, que vous lisiez l'évangile de Jean. Lisez-le. Asseyez-vous et lisez l'évangile de Jean. Pour lui, le mot Jésus, le mot Christ, était soit un mot de blasphème, soit quelque chose dont on ne parle pas. Cet homme juif rejetait la réalité du Christ. Il a lu l'évangile cette semaine-là. Il est revenu. Et j'ai demandé, l'avez-vous lu? Il a dit oui. J'ai dit, quelle est votre réponse? Quelle est la conclusion dominante dans votre esprit après avoir lu l'évangile de Jean? Sans hésiter, il m'a dit, alors qu'il n'avait jamais lu l'évangile de Jean avant, « Eh bien, une chose est sûre, Jésus est plus qu'un simple homme. Jésus est Dieu, rien qu'en lisant l'évangile de Jean, parce que l'intention de Jean, c'est ça. Personne ne dit mieux qui est le Fils de Dieu que Jean, et aucun passage ne l'exprime mieux que le 5e chapitre. Regardons le verset 16. Les Juifs persécutaient Jésus, et il cherchait réellement à le tuer, parce qu'il avait fait une guérison le jour du sabbat. Il avait violé leur tradition juive artificielle, en guérissant le jour du sabbat, et en faisant transporter un homme sur son lit, ce qui, selon eux, était une violation de leur tradition. Maintenant, Jésus leur répond. Il leur répond au verset 17. Et sa réponse est une affirmation absolument étonnante de qui il est. Tout d'abord, dit-il, « Mon père travaille de cette façon, et je travaille alors. » Les Juifs ont cherché à les tuer encore plus parce qu'il avait non seulement brisé le sabbat, mais qu'il a dit aussi que Dieu était son Père, ce qui faisait de lui quoi? Un égal de Dieu. Dans l'esprit juif, dire que Dieu était son Père, c'était dire que je suis de la même essence que Dieu, et c'est exactement ce que l'ange voulait dire dans son annonce à Marie. Or, ce qui est si dévastateur pour ce peuple juif, c'est que quand Jésus dit « Mon Père travaille » et « Je travaille », il prétend être égal en nature avec Dieu, vous comprenez? Égal en nature avec Dieu. Il dit vraiment cela. Regardez dans Marc, chapitre 2, verset 27. Il est dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour Dieu. Vous me direz, « Mais Dieu a créé en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. » Écoutez, ne croyez pas un instant que le 7e jour, Dieu s'est reposé complètement. Tout ce dont il se reposait, c'était de la création, parce qu'elle était terminée. Dieu s'est reposé de sa création. Mais si Dieu s'était endormi, tout ce qu'il avait créé se serait désintégré. Il soutient tout par le pouvoir de sa parole. Dieu s'est reposé du processus créateur. Dieu ne s'est pas reposé de faire ce que Dieu doit faire pour maintenir sa création. La seconde chose qu'il nous dit, c'est qu'il est non seulement égal à Dieu par nature, mais aussi par le travail. Regardez dans le verset 19. Jésus leur répond et il leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils de Dieu ne peut rien faire par lui-même que ce qu'il voit le Père faire. Car tout ce qu'il fait, le Fils le fait aussi, de la même manière. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles que tu peux imaginer. À présent, il prétend être égal dans les œuvres. Il dit, « Tout ce que je fais est exactement ce que Dieu fait. Et si vous me condamnez pour avoir brisé votre sabbat, vous condamnez Dieu. Dites à Dieu qu'il a brisé votre sabbat, parce que je fais seulement ce que Dieu fait. J'obéis à Dieu. C'est lui qui travaille, et je suis celui qui travaille, et ce qu'il fait, je le fais. Donc, si vous m'accusez, vous accusez Dieu. » Incroyable déclaration. Je ne fais rien par moi-même. Quoi que fasse le Père, c'est exactement ce que je fais. Quoi qu'il veuille que je fasse, il me montre quoi faire. Donc votre dispute est avec Dieu, parce que nous sommes égaux dans le travail. Troisièmement, il dit nous sommes non seulement égaux en nature et égaux dans le travail, mais nous sommes égaux en puissance. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il dit, j'ai le même pouvoir de ressusciter les morts physiquement et spirituellement que Dieu. Nous sommes égaux en puissance. Et au verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il répète la même idée. Jésus fait des déclarations étonnantes. Comme le Fils du Très-Haut, il possède la nature du plus grand. Il fait les œuvres du Très-Haut, et il est égal en puissance. Quatrièmement, il dit qu'il a la même autorité que lui. À la fin du verset 21, il dit que le Fils donne la vie à qui il veut. Il a la même autorité que lui. Il peut rendre jugement. Il peut faire ce qu'il veut. Vous remarquerez aussi au verset 22 qu'il est égal dans le jugement. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le verset 27 évoque la même idée. Il lui a donné l'autorité d'exécuter aussi le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Ainsi Dieu juge. Dieu confie le jugement à Christ, et donc en réalité, Dieu et Christ jugent ensemble. Ils sont donc égaux dans le jugement. Puis nous avons le verset 23. Que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le fait est qu'ils sont égaux en termes d'honneur. À présent, notez l'alternance tout au long de ce passage des termes Père, Fils, Père, Fils, Père, Fils, Père, Fils. Et ce que l'emploi de la relation Père-Fils de Dieu et du Christ a l'intention de communiquer est l'égalité de leur nature, l'égalité de leur travail, l'égalité de pouvoir, l'égalité de leur autorité, l'égalité de leur jugement et l'égalité de leur honneur. Bref, que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et alors, quand l'ange dit à Marie, il se rappelait le Fils du Très-Haut. Il dit, c'est le Fils de Dieu dont la parole est égale à celle de Dieu. Et quand Jésus a affirmé cela, les Juifs savaient que c'est ce qu'il voulait dire. L'enfant est Dieu. Quelle incroyable, quelle merveilleuse, quelle extraordinaire, quelle renversante et presque incroyable voix qui résonne à leurs oreilles, disant que votre enfant, ce petit bébé, que vous avez porté en votre sein, et celui que vous tenez dans vos bras, est le Dieu vivant. Matthieu rapporte également la naissance du Christ, et souligne cela. Comment Dieu peut-il naître d'un ventre humain? Le verset 20 dit, « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et le verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'enfant est Dieu, et l'enfant a été conçu sans un père humain. » Dieu a planté une graine en Marie pour créer le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 1, verset 43. Même Élisabeth dit à Marie, « Pourquoi est-ce accordé à moi que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Marie reconnaît que malgré sa relation, sa propre parenté, elle est sur le point de donner naissance au Seigneur lui-même. Et dans le chapitre 2 de Luc, au verset 11, l'ange annonce au berger qu'il va naître ce jour dans la ville de David un sauveur, qui n'est autre que le Messie, le Seigneur lui-même. Ainsi, le premier message étonnant qui est venu aux parents de Jésus était que cet enfant serait Dieu, le Seigneur. Les auteurs de nos chants de Noël ont compris cela à travers les siècles, et chaque année nous arrivons en cette saison, et nous chantons ces chansons, et presque sans y penser, nous ne prêtons pas attention à ce que nous chantons. Alors laissez-moi vous rappeler l'accent mis sur les chants de Noël. Écoutez ces lignes familières. Joie pour le monde, le Seigneur vient. Oui, Seigneur, nous te saluons, né en ce joyeux matin. Viens adorer à genoux le Christ, le Seigneur. Christ au plus haut des cieux adoré. Christ le Seigneur éternel. Il s'est fait chair. Viens voir le visage de Dieu. Salue la divinité incarnée. Jésus, notre Emmanuel. Pourtant, dans la rue sombre, la lumière éternelle resplendit. Nous chantons, « Oh, viens à nous, demeure avec nous, notre Seigneur Emmanuel !» Ce qui signifie « Dieu avec nous, le Seigneur Jésus est né !» Nous chantons « Le doux garçon de la Vierge et le Seigneur de la Terre !» Nous chantons « La parole du Père, c'est maintenant faite chair !» Comment, à Bethléem, est né le Fils de Dieu ? Dieu réside maintenant avec l'homme. Tout à coup, le Seigneur est apparu. Nous chantons que tu as quitté ton trône et qu'il te couronne royalement, car tu es venu sur terre pour moi. Et nous chantons souvent que le Père a donné son Fils, il a donné son bien-aimé. Et donc les auteurs de tous les chants de Noël marquent pour nous la réalité que l'enfant est Dieu. La deuxième chose étonnante, et c'est tout aussi étonnant, c'est que l'enfant était aussi homme. Il avait aussi des traits humains. De retour à Luc 1, verset 31. Et voici, dit l'ange à Marie, tu concevras en ton sein et tu porteras un fils. Maintenant, ce serait une chose pour Dieu de simplement venir dans le monde, juste en descendant du ciel en quelque sorte pour y arriver. Et Dieu pouvait certainement faire cela. Dieu parcourait la terre dans l'Ancien Testament, sans le besoin d'une mère humaine, sans naissance humaine. Il y a de nombreuses occasions dans l'Ancien Testament où Dieu est apparu. Il marchait et parlait dans le jardin avec Adam et Ève. Dieu a fait des apparitions encore et encore. Il est descendu au mont Sinaï. Il s'est montré à Abraham. Il y a des moments et des endroits où Dieu a pris une apparence, et il n'a pas eu besoin d'être né d'une femme. Mais c'était parce que Dieu n'était jamais venu au monde comme un homme avant, et maintenant il vient. Il ne vient pas seulement en tant que Dieu dans son entier, mais complètement homme. Et donc, il doit être né pleinement comme les hommes sont nés à travers le ventre et le canal de la naissance d'une femme humaine. Et tu concevras en ton sein, et tu enfanteras un fils pour mettre en relief son humanité. En passant au verset 36, en ce qui concerne Élisabeth, il est dit qu'elle a aussi conçu un fils dans sa vieillesse, et elle en est au sixième mois, elle qui a été appelée stérile. Le parallèle est évident. Élisabeth portait un enfant duquel elle allait accoucher, tout comme Marie portait un enfant auquel elle donnerait naissance. Et si Jean-Baptiste était humain, Jésus le serait aussi. Dieu dans sa totalité, oui, mais pleinement homme aussi. Regardez pour un moment le chapitre 1 de Matthieu et le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand il la trouva enceinte, il savait qu'il n'avait jamais eu de relation avec elle. Il allait divorcer, pensant qu'elle lui avait été infidèle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. » Donc Matthieu dit la même chose. La conception a eu lieu en elle, et elle enfantera un fils. Maintenant, prenez Luc 2, verset 6. « Et ainsi, pendant qu'ils étaient là, les jours étaient passés, ou le temps était venu, afin qu'elle soit délivrée, tandis qu'ils étaient à Bethléem. Le temps a été calculé, c'est-à-dire que sa grossesse de 9 mois avait suivi son cours. » La période normale de 9 mois avait eu lieu. C'est une naissance très normale. Ce n'est pas une conception normale. Jésus-Christ a été conçu par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. mais il est né par le processus normal du corps de Marie. Et notez ce qu'il dit d'une manière quasiment nonchalante au verset 7. « Elle enfanta son fils premier-né. » Ce qui me frappe ici, c'est que l'expression « son premier fils né » souligne quelque chose de très significatif. « Elle enfanta son fils premier-né. » Cela implique qu'elle en a enfanté d'autres. Et c'est-à-dire que son premier-né et tous les autres sont nés de la même manière, par le processus normal. Elle a enfanté son premier-né. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous constaterez que le témoignage de Matthieu 12, versets 46 et 47, le témoignage de Matthieu 13, versets 55 et 56, le témoignage de Jean 2, verset 12, Jean chapitre 7, versets 3, 5 et 10, confirme qu'elle a eu d'autres enfants. Jésus avait des frères et des sœurs. En son sein, elle a porté beaucoup d'enfants. Par accouchement, elle a fait naître beaucoup d'enfants. Ce n'était donc que le premier. Le fait est que Jésus est né de manière humaine naturelle. Il est donc parfaitement homme. Et ce qui est étonnant et stupéfiant, c'est de savoir comment une femme peut enfanter quelqu'un de totalement humain sans l'aide d'un père humain. C'est un mystère aussi profond que la façon dont l'enfant pourrait être Dieu, car il exige un miracle infini. C'est un être humain véritable. Regardez le chapitre 2, verset 12. On dit aux bergers qu'ils trouveront un vrai bébé, enveloppé dans des langes, couché dans une mangeoire. Notez le verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Comme tout autre enfant juif, il voulait être sûr que celui-ci avait le signe de l'alliance, la circoncision, la coupe du prépuce. Cela a été fait pour le petit bébé Jésus, comme pour tout autre bébé. Ce n'est pas quelque bizarrerie, ni une étrange créature qui est venue dans le monde. C'est vraiment Dieu, oui, mais un Dieu pleinement homme aussi. Eh oui, et la circoncision, qui a été commandée depuis la Genèse, chapitre 17 au verset 12, réitérée dans Lévitique 12 au verset 3, comme la loi de Dieu pour le peuple de l'Alliance, est appliquée également dans le cas de ce petit aussi. Vous remarquerez aussi dans le chapitre 2 de Luc au verset 40 que l'enfant a grandi et est devenu fort en esprit, qu'il était rempli de sagesse et que la grâce de Dieu était sur lui. C'est très semblable à ce qui est dit sur Jean-Baptiste au chapitre 1 verset 80. Il est dit de Jean-Baptiste « Et l'enfant grandit et devint fort en esprit. » Comme Jean-Baptiste grandit, Jésus grandit dans un processus très naturel de croissance humaine. Jésus nous dit dans Jean 1, verset 14, qu'il était la parole faite chair, qui habitait parmi nous. En hébreu, plusieurs passages de l'Écriture soulignent des choses qui sont essentielles. Par exemple, dans Hébreu 2, verset 17, il est dit par conséquent en toutes choses, il était approprié pour lui d'être fait comme ses frères. En toutes choses, il était comme ses frères. Il était en tout point. Hébreu 4, verset 15, tenté comme nous sommes, mais sans péché. Dans Galates 4, verset 4, ce merveilleux témoignage dit, « Dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils fait d'une femme, fait sous la loi, c'est-à-dire qu'il est né comme tout le monde. Il est venu au monde, comme tout le monde, d'une femme obligée comme tous les êtres humains de garder la loi de Dieu, fait comme ses frères en toutes choses. S'il devait remplacer l'homme sur la croix, il devait être un homme. S'il devait ressusciter des morts pour l'homme, il devait être un homme. C'est pourquoi Paul dit si merveilleusement, « Nous avons un médiateur entre Dieu et l'homme. » 1 Timothée 2, verset 5, « Jésus-Christ, homme. » Ses parents étaient étonnés qu'il soit Dieu. Ils étaient étonnés qu'il soit homme. Entièrement Dieu et pleinement homme. Enfant miraculeux. Et je vous rappelle encore une fois ce que vous chantez chaque année. C'est aussi un thème important et essentiel de toutes les chansons que nous chantons. Saint enfant si tendre et doux, apparaissant par la parole du Père, non par la chair. Voyez-le dans la mangeoire, couvert de chair. Voyez la divinité. Quel est cet enfant étendu sur les genoux de Marie endormie? Comme tout autre bébé, ce bébé est le fils de Marie. Un auteur dit, « Bien que d'humble naissance, tu t'es vu naître dans la plus grande humilité. » Un autre dit, « Il est né de la lignée de David, descendant du sein de la Vierge. » Heureux d'habiter tel un homme parmi les hommes. Jésus, notre Emmanuel, entièrement homme, nous le chantons, nous en témoignons. Le troisième aspect étonnant de cet enfant au chapitre 1 de Luc, encore dans le verset 35, et le fait qu'il n'était pas seulement Dieu et homme, mais qu'il était sans péché. Il était saint, il était parfait. L'ange dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Et c'est vraiment tout ce que nous savons de la façon dont la conception virginale de cette naissance a eu lieu. Par conséquent, retenez bien ça, cette descendance sainte sera appelée le Fils de Dieu. C'est un enfant saint. Oh, quelle déclaration remarquable! Pensez-y. Il n'y a eu dans toute l'histoire des naissances de l'humanité qu'un seul enfant né saint. Un seul. Personne n'a jamais enfanté de saint enfant, excepté Marie, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Jean le Baptiste était rempli du Saint-Esprit, nous dit Luc 1, verset 15. Mais il n'était pas saint. Il n'était pas sans péché. Il n'était pas parfait. Il n'était pas sans défaut. Quel enfant! Imaginez qu'on vous dise que l'enfant que vous portez sera absolument parfait. Vous n'aurez absolument aucun problème avec son éducation. Aucun problème, quel qu'il soit. Il n'y a jamais eu un moment dans la vie et l'expérience de cette famille où Jésus a provoqué quelque mécontentement causé par quelque chose qu'il aurait fait et qu'il n'aurait pas dû. Il n'y avait jamais de paroles, de pensées, d'actes provocateurs. Il n'y a jamais eu de mauvaise attitude. Il n'y a jamais eu d'actes irréfléchis, méchants ou égoïstes. Il ne produisait que l'émerveillement et l'admiration, le respect et la louange. Il n'y a pas d'autre enfant de ce genre. La mère de Pierre n'avait pas d'enfant saint. La mère de Jacques et de Jean n'avait pas d'enfant saint. La mère de Paul n'avait pas d'enfant saint. Lui qui était le chef des pécheurs. Lui qui lutta avec son corps mortel jusqu'à ce qu'il soit libéré par Jésus-Christ. Vous voyez, depuis Caïn et Abel, tous les enfants ont été impies. Mais le Saint-Esprit, d'une manière miraculeuse, a produit un enfant à travers le corps de Marie et en a extirpé le péché, créant un enfant saint. Il était saint dès la naissance, ce que nous ne connaîtrons pas jusqu'à notre mort. Il commence où nous finissons. Il commence dans la sainteté que nous attendons. Il est dans la plénitude de sa sainteté bien avant nous. Il est entré en pleine liberté le jour même où nous entrons dans notre grande servitude. Il a commencé par être pleinement sanctifié, et nous, par la grâce de Dieu, finiront par être pleinement sanctifiés. Aucun enfant ne sera jamais tel que lui. Hébreux dit qu'il est distinct des pécheurs. Il est sans souillure. Il n'a jamais eu besoin de discipline. Il n'a jamais eu besoin de correction. Il n'a jamais eu besoin de pardon. Il n'a jamais eu besoin de salut. Alexandre White, le prédicateur le plus remarquable d'Écosse, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, qui était pasteur de l'église Free Saint George à Édimbourg, écrivait à propos de la sainteté du Christ enfant, comparé à nous dans quelques très très beaux termes. Écoutez ce qu'il dit. Je dirais que si vous voulez que votre enfant ne soit pas cérémonieusement et conventionnellement saint, mais personnellement et réellement et éternellement saint, et si vous savez vous-même ce qu'est la sainteté, vous devez vous-même rechercher pour votre enfant, non pas la sainteté en elle-même, mais celle de l'enfant saint lui-même. Et aussi souvent que vous voyez le cœur brisé, la preuve que votre enfant n'est pas né saint, comme l'enfant de Marie, quand vous ne pouvez que voir et sentir au plus profond de votre cœur l'irritabilité, l'agressivité, l'impolitesse, la bouderie, l'impudence, l'orgueil, la colère et l'obstination, prenez-le à part, et comme la mère de Thomas, Haliburton, priez avec lui et pour lui. Priez pour que votre enfant soit aussi fait de Dieu. Priez pour que lui et vous soyez un frère jumeau du saint enfant Jésus. Priez sans cesse que votre enfant soit sanctifié avec la même sanctification que l'enfant de Marie. Et même si tout n'est pas parfait du premier coup comme sa sanctification l'a été, priez pour qu'au moins elle débute et que vous soyez là pour la voir et y prendre part. Prenez votre enfant à part tant qu'il est docile et vous suit et demandez à genoux et pour qu'il entende quelque chose comme ça. Ô Dieu le Père, et le Père du Saint-Enfant Jésus, fais de mon cher enfant un enfant de Dieu comme lui, et après que je sois parti, fais qu'il soit et qu'il reste un homme de Dieu comme lui. Ne prenez pas de repos pour vous-même, et ne donnez à Dieu aucun repos jusqu'à ce que vous voyiez la graine de Dieu, non seulement germer dans le cœur de votre enfant, mais jusqu'à ce que vous le voyiez comme Marie a vu son premier fils né, soumis à elle et aux règles de sa maison, grandissant chaque jour en sagesse, en renommée et en grâce avec Dieu et les hommes. Quel défi, quel défi! Le saint enfant, incomparable à tout autre enfant, est le modèle pour chaque enfant. Ne chantons-nous pas cela? N'est-ce pas une partie de notre répertoire de Noël? Ne chantons-nous pas les étoiles du matin ensemble? Proclamons la naissance sainte. Ne chantons-nous pas Jésus-Christ, si tendre et doux? Ne chantons-nous pas les rayonnements radieux de ton saint visage? Ô saint enfant de Bethléem, descends vers nous. Nous t'en prions. Ne chantons-nous pas, mais à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux, sainte nativité? Oui, nous sommes toujours émerveillés que l'enfant soit sans péché. Non seulement Dieu, homme, est sans péché, mais quatrièmement, ses parents ont été stupéfaits parce qu'on leur a dit que l'enfant serait aussi le Seigneur souverain, qu'il serait également roi. Revenons au verset 32. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume n'aura pas de fin. Il aura un royaume éternel. Le Seigneur lui donnera ce trône. Ceci, bien sûr, accomplit la prophétie de 2 Samuel 7, des versets 11 à 13, qui dit que David un jour aura un fils plus grand, un fils qui viendrait des siècles plus tard, de ses reins, et qui prendrait le trône et rétablirait le royaume. Et alors ce serait un royaume de justice et un royaume éternel. Et ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est né dans la lignée de David. Lisez la généalogie de Joseph dans Matthieu 1. Lisez la généalogie de Marie dans l'évangile de Luc, chapitre 3. Et vous verrez que c'est celui qui est né de parents qui viennent des reins de David. Marie et Joseph font partie de la lignée de David, et ils portent donc le sang royal, qui se réunit en Christ, et il est donc en effet l'héritier légitime du trône de David. Il n'est pas né comme Jean-Baptiste dans la maison de Lévi, la maison sacerdotale. Il est né dans la maison royale, la maison des rois, dans la maison de David, et il peut prétendre au trône d'Israël, qui devient le trône du monde, qui devient le trône de l'univers, qui devient le trône de l'éternel nouveau ciel et nouvelle terre. Il est Seigneur souverain. Ce petit enfant dont ils entendent parler recevra le trône de son père David et règnera dans un royaume éternel. Quelle annonce! Je veux dire, ce serait suffisant pour certains d'entre nous si le Seigneur nous disait « Votre enfant grandira pour devenir un grand missionnaire. Votre enfant grandira pour être un grand professeur. » Mais l'influence de cet enfant est absolument incroyable et stupéfiante. Et l'esprit de ses parents a même du mal à saisir toutes les déclarations radicales faites sur ce petit enfant. Le roi de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Matthieu veut nous montrer la signification de ceci dans le deuxième chapitre de son évangile. Dans les versets 1 à 8, il décrit les mages, ou comme nous les appelons les sages. Les mages étaient un groupe héréditaire de prêtres qui avaient pris une grande importance dans l'Orient, en Babylone, et Mède et en Perse. Et ils étaient les faiseurs officiels de rois de l'Est. Ce sont eux qui connaissaient les lois des Mèdes et des Perses. Il s'était élevé un tel pouvoir qu'aucun roi ne pouvait être nommé à l'Est en opposition aux grands rois de l'Occident et de l'Empire romain, à moins qu'il ne soit formé et approuvé et nommé par eux. En fait, ces mages ont grandi à Babylone, et même s'ils étaient païens et incroyants pendant un certain temps, l'influence de Daniel et des Juifs en captivité avait provoqué parmi eux une certaine crainte de Dieu, qui firent vraiment chercher aux mages ce Messie, ce grand roi qui viendrait. Le roi des dernières années avait été détrôné, et le temps de chercher un nouveau roi était venu. L'étoile était apparue. Ils ont suivi l'étoile, cherchant à voir l'accomplissement de la prophétie, sans doute transmise par Daniel et les autres Juifs croyants en captivité, et ils partent. Des générations après ceux qui ont reçu cette prophétie, quand Daniel était en vie. Mais le message était aussi frais que lorsqu'il a été transmis. Ils vont trouver ce roi. Et le fait que Matthieu veut que nous remarquions est que les non-juifs, le monde païen, les faiseurs officiels de rois de l'Est viennent affirmer qu'il est véritablement le roi. De plus, Matthieu confirme aussi que le monde juif l'a reconnu comme roi de façon unique en l'hostilité d'Hérode. S'il n'était pas roi, il n'aurait pas été une menace pour Hérode, par le fait même qu'Hérode ait massacré tous les jeunes enfants dans cette région et ait créé un holocauste de proportions énormes prédit par le prophète Jérémie. Matthieu nous montre qu'Hérode aussi représente l'hostilité du peuple juif à affirmer la royauté de Jésus-Christ dans son effort pour l'éradiquer, afin qu'il ne représente aucune menace pour Hérode, ainsi que ce soit par le culte positif des mages ou par l'hostilité négative d'Hérode. Le peuple affirme que Jésus est en effet un roi. Il avait le droit de gouverner. Sa généalogie le dit à travers Joseph. Sa généalogie le dit à travers Marie. Et toutes les choses qui se passent nous le disent également. Et l'Écriture nous le redit évidemment. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul potentat, celui qui règnera pour toujours et de manière suprême. Les Écritures sont pleines de déclarations à ce sujet. Philippiens 2 dit que tout genou fléchira devant lui sur la terre. Sous la terre, toutes les créatures s'inclineront en soumission à la royauté, au Seigneur Jésus-Christ. Quelle chose étonnante! Je veux dire, ça aurait été merveilleux si, quand vous avez aperçu votre bébé pour la première fois, on vous aurait dit que votre enfant serait le président des États-Unis, ou même le président d'une société. Je veux dire, ce serait merveilleux pour certains d'entre nous, un grand chef. Mais être roi des rois et seigneur des seigneurs, est plus que Marie ne peut contenir, et c'est peut-être bien pourquoi, quand on nous parle de ses rêveries, elle a médité toutes ces choses dans son cœur. Il lui était impossible d'être résolu, parce que toutes ces choses étaient inconcevables pour elle. Et les auteurs de cantiques célèbrent cela aussi. Nous le chantons tout le temps. Joie pour le monde, le Seigneur est là. Que la terre reçoive son roi. Joie pour la terre. Le Sauveur règne. Venez voir naître le roi des anges. Venez adorer à genoux. Christ le Seigneur, le roi nouveau-né. Écoutez la voix des anges chanter. Gloire au roi nouveau-né. Et un auteur dit, il est né un roi dans la plaine de Bethléem. J'apporte l'or pour le couronner encore. Roi pour toujours, à jamais, sur le monde, il règne. C'est le Christ roi, le roi des rois que le salut apporte. Laissez les cœurs aimants l'entonner, né pour régner en nous à jamais. Règne en nos cœurs seulement. Élève-nous vers ton glorieux trône. Venez adorer, Christ le Seigneur, le roi nouveau-né. Car le cœur de Bethléem berce un roi. Paix sur la terre, bonne nouvelle aux hommes de la part des cieux. Ô roi gracieux, et ça continue. Et l'émerveillement continue. Non seulement Dieu, homme, sans péché, souverain, mais cinquièmement, on a dit à ses parents qu'il serait le Sauveur, le Sauveur. Verset 31. Et vous lui donnerez le nom de Jésus. Et à Joseph, il a été dit, et inscrit dans Matthieu 1:21. Tu l'appelleras Jésus, ce qui signifie Dieu sauve, car il sauvera son peuple de ses péchés. Je veux dire, il suffirait à quiconque de savoir qu'ils allaient enfanter Dieu. Et un Dieu qui était pleinement homme et qui était absolument saint, qui soit le souverain Dieu de l'univers, et maintenant de savoir qu'il est aussi le sauveur de toute la race humaine qui a la foi. Incroyable enfant. Dans Luc, chapitre 2, verset 11, l'ange annonce au berger, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » En fait, c'est le seul passage dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, où Jésus est appelé Sauveur, littéralement, bien que le terme apparaisse ailleurs dans le Nouveau Testament. Il vous est né un Sauveur. Dans le chapitre 2, verset 30, Siméon se réjouit en disant « Mes yeux ont vu ton salut, alors qu'il tient cet enfant. » Au verset 38, Anne, la prophétesse, qui est veuve depuis de nombreuses années, et se trouve dans le temple à servir Dieu en jeûnant et attendant la venue du Rédempteur, se réjouit de la rédemption arrivée à Jérusalem. Et répand la nouvelle à tous ceux qui sont à la recherche de cette rédemption. Oui, il est venu en tant que sauveur. Paul dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est une parole fidèle et digne de toute acceptation. Jésus a dit dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui a été perdu. Et Hébreux 10, verset 5 à 7 dit, qu'étant donné que des troupeaux de chèvres et tous les sacrifices d'animaux ne pouvait pas enlever le péché. Dieu a formé un corps pour le Christ, pour qu'il vienne dans le monde pour nous ôter notre péché, pour nous sanctifier, nous enlever notre péché, pour détruire notre ennemi, pour nous amener à la perfection spirituelle, pour faire de nous de nouvelles créations. Et nous sommes purs en lui, dit-il. Par une seule offrande, il nous a sanctifiés pour toujours. Oui, c'est le Sauveur. C'est celui qui est né pour mourir pour les péchés du monde. Il y a sur la mangeoire l'ombre de la croix, et cette ombre est présente toute sa vie jusqu'à ce qu'il soit cloué sur cette croix. C'est pour cette raison que je suis venu dans le monde, nous dit-il. Je suis venu pour mourir, parce que, dès le début, il devait être le Sauveur. La seule façon de sauver les hommes de leurs péchés était de payer la peine de leurs péchés, qui est la mort, et Jésus vient mourir. N'est-ce pas merveilleux, quand nous chantons les chants de Noël, d'entendre des lignes comme celle-ci? Christ le Sauveur est né. Christ le Sauveur est né. Je me demande parfois si les gens pensent ce qu'ils disent quand ils chantent ces cantiques. Je me demande ce qu'ils pensent quand ils les entendent chanter. C'est comme si toute la vérité de ces chants leur passait au-dessus. Et je crois, personnellement, je suppose, par le dessein de Dieu, que les chants de Noël ont maintenu une grande intégrité théologique qui surpasse beaucoup d'autres cantiques familiers. Ils portent des vérités profondes. Dans la cité de David est né, ce jour de la lignée de David, le Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Joie pour le monde. Le Sauveur règne. Paix sur terre et miséricorde douce. Pourquoi? Dieu et les pécheurs se sont quoi? Réconciliés? Nés pourquoi? Pour élever les fils de la terre, nés pour leur donner une seconde naissance. Alors, unissons tous ensemble nos louanges à notre Seigneur céleste, qui a fait le ciel et la terre à partir de rien, et avec son sang a racheté l'humanité. Un autre chant dit « Le roi des rois apporte le salut ». Un autre « Les bons chrétiens se réjouissent, cœur et âme, et voix ». Maintenant, vous n'avez plus à craindre la tombe. Le Christ est né pour vous sauver. Le Christ est né pour vous sauver. Un autre dit « Rappelez-vous que le Christ, notre Sauveur, est né le jour de Noël pour nous sauver tous de la puissance de Satan quand nous étions égarés. Tu viens au Seigneur avec la parole vivante qui libérera ton peuple, mais avec un dédain moqueur et une couronne d'épines. Ils te conduiront au calvaire. Oui, il y avait étonnement à la naissance de Christ, à cause de qui était l'enfant, et ses parents ont été stupéfaits de ce qui leur a été dit. Finalement, Siméon leur a dit au chapitre 2, versets 34 et 35, que cet enfant serait le maître du destin de chaque être humain. Il est le maître de la destinée de chaque personne. Et Siméon les a bénis et a dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il est un révélateur du cœur, et il est un maître de la destinée. C'est ce qui se passe avec Jésus qui détermine si vous tombez ou si vous ressuscitez. Votre destinée éternelle, c'est de tomber dans la gueule de l'enfer. Votre montée dans la gloire du ciel dépend du Christ. Je veux dire, c'est une chose d'avoir un enfant influent. C'est une autre de dire, eh bien, mon enfant a eu un grand impact sur le monde. Mon enfant a de l'influence sur cette région ou sur une autre région. Mais pensez que votre enfant possède la plus grande influence au monde, qu'il est si influent que le destin de chaque être vivant dépend de sa relation avec cet enfant. Incroyable déclaration. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Celui qui a le Fils a quoi? La vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est très clair. Il est le maître de la destinée de tous les êtres humains. Quiconque veut entrer au ciel peut le faire en raison de l'œuvre de Jésus-Christ, par la disposition gracieuse de son péché. Quiconque est envoyé en enfer va en enfer parce que cette disposition gracieuse ne leur a pas été accordée à cause de leur incrédulité. Vous me direz, qu'en est-il des saints de l'Ancien Testament avant sa mort? Les saints de l'Ancien Testament avant sa mort avaient leurs péchés couverts par la mort de Christ. Si Christ n'était pas mort, il n'aurait jamais été au ciel. Vous dites, eh bien, cela n'avait pas encore eu lieu. Si, cela avait eu lieu dans l'Esprit de Dieu, parce que le temps ne s'applique pas à Dieu. Tout le monde a été racheté par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors vous me direz, ils n'étaient même pas au courant de ça. C'est vrai, ils ont cru en Dieu. Et parce qu'ils ont cru en Dieu, Dieu leur a fait bénéficier de ce sacrifice à cause de leur foi. Abraham croyait en Dieu. Et cela a compté pour lui comme un signe de droiture. Mais c'est l'œuvre de Christ qui a payé le châtiment pour le péché. Ce n'était pas le travail des bœufs et des chèvres, c'est certain. Ainsi, le destin de chaque personne est lié au Christ. Et ne l'entendons-nous pas? Pensez au chant de Noël à nouveau. Ils sont pleins d'invitations. Venez, adorons-le. Ensuite, chantons tous à l'unisson avec notre Seigneur céleste, quelle que soit votre réponse à Jésus-Christ. Cela détermine votre destinée. Venez le louer, riches et pauvres. Le roi des rois apporte le salut. Que les cœurs aimants le couronnent. Ô saint enfant de Bethléem, descends sur nous prions, lave nos péchés et viens en nous. Nais en nous aujourd'hui. Ô viens en nous, demeure avec nous, notre Seigneur Emmanuel. Ô viens en mon cœur, Seigneur Jésus. Il y a de la place dans mon cœur pour toi. Enfin, j'aime ces deux cantiques-là. Sois près de moi, Seigneur Jésus. Je te demande de rester près de moi pour toujours. Et de m'aimer, je t'en prie. Bénis tous tes chers enfants de par tes tendres soins. Emmène-les au ciel pour y vivre avec toi. Ce sont là des réponses appropriées à la naissance du Christ, oui. L'enfant le plus merveilleux qui ait jamais vécu. Ce n'est pas surprenant que le verset 33 du chapitre 2 nous dit « Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Que le même émerveillement et le même étonnement soient dans votre cœur lorsque vous entendez à nouveau ces grandes vérités. »
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.